I introduce the great American philosopher, John Dewey.
Avoir raison avec John Dewey. J'ai découvert John Dewey en 1987. Je l'ai découvert en travaillant sur Robert Park, qui fut un siècle plus tôt, au milieu des années 1880, l'un de ses premiers étudiants à l'Université du Michigan. J'ai alors notamment découvert comment Dewey avait été à l'origine d'un extraordinaire projet de journal, Thought News, un journal imaginé par deux anciens étudiants de Dewey qu'il avait fait se rencontrer. Robert Park, donc, l'un des futurs fondateurs de l'école de Chicago en sociologie, mais qui fut au préalable longtemps journaliste, ne devenant sociologue qu'à 50 ans, et un autre journaliste, reporter financier à Wall Street, hein, dénommé Franklin Ford. L'idée de Thought News, inspirée des enseignements de Dewey, et notamment de son souci de la vulgarisation scientifique, était celle d'un journal qui traiterait l'actualité, mais avec les outils de la philosophie, de ce qu'on n'appelait pas encore les sciences sociales, plutôt qu'avec ceux du journalisme. Hélas, ce journal n'a jamais vraiment vu le jour, seul un numéro zéro ayant été confectionné. Il est de multiples manières d'hériter de John Dewey. La mienne aura consisté à toujours garder en tête ce rêve d'un journalisme intellectuel capable de construire les problèmes et les publics afin de nourrir un espace public démocratique. Des héritages et des influences de Dewey, il sera question aujourd'hui, notamment en philosophie et en sciences sociales, avec le philosophe Pierre Steiner et la sociologue Carole Gaillet-Viau. Bonjour Pierre Steiner.
Bonjour Sylvain Bonbon.
Vous êtes philosophe, enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Compiègne. Et bonjour Carole Gaillet-Viau.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes chargé de recherche au CNRS, au CESDIP, au Centre de recherche sur le droit et les institutions pénales. Alors, je voudrais peut-être commencer, on aura trop peu de temps en une demi-heure pour prendre toute la mesure des héritages et des influences de Dewey, mais on va plutôt le faire à partir de vos travaux, de la manière dont Dewey est utile pour vous, de la manière dont il vous aide à faire de la philosophie, à faire de la sociologie aujourd'hui. Mais avant cela, Pierre Steiner, je voudrais que peut-être on puisse replacer, on l'a assez peu fait durant cette semaine, John Dewey au sein du courant philosophique plus vaste auquel il appartient et qui s'appelle le pragmatisme. On sait que Dewey est l'une des figures fondatrices de ce courant, mais il en est d'autres, il en est une en particulier considérable, qui est celle de William James. Il y a aussi George Herbert Mead, qui fut l'assistant de Dewey dès le début au Michigan. Un certain nombre de protagonistes ont formé, non pas une école, mais un courant philosophique qu'on a appelé le pragmatisme. Quelle est la place de Dewey au sein de ce collectif, Pierre Steiner?
Alors, en effet, il existe un pragmatisme avant Dewey et un pragmatisme après Dewey. En fait, on considère en général que le pragmatisme, comme courant intellectuel, trouve son origine au début des années 1870 à Cambridge, sur la côte est américaine, près d'Harvard. Là où se tiennent, en fait, de manière informelle, des réunions dans ce qu'on appelle le club métaphysique, qui réunit des juristes, des philosophes et des psychologues, dont William James et Charles Sanders Peirce. Et lors de ces réunions, il y a notamment une définition de la croyance comme habitude d'action, qui est une définition, en fait, qu'on doit à un psychologue écossais qui s'appelait Alexander Bain, une définition qui est largement discutée et qui va centralement influencer le pragmatisme. En définissant la croyance comme habitude d'action, il s'agit de la soustraire du régime de l'idée, d'un régime intellectualiste, et d'insister sur les rapports justement entre croyance et conduite humaine. Et justement, en 1878, Charles Sanders Peirce, le premier, va créer le terme pragmatisme, qui va en fait pour lui désigner une méthode de clarification du sens d'un énoncé ou encore d'une idée. Le sens d'un énoncé, ce sont ses effets concevables pour la conduite humaine. Donc là, on retrouve ce thème de la croyance comme habitude d'action. Alors, Peirce défend par ailleurs une conception particulière de la vérité, de la réalité, de l'enquête et de la méthode scientifique qui va largement influencer Dewey, et également une théorie des signes. Et ensuite, un contemporain de Peirce, donc qui avec lui assistait à ces réunions, à savoir William James, à partir de la fin du XIXe siècle, eh bien, va populariser et va généraliser le sens du terme pragmatisme aux grandes dames de Peirce d'ailleurs. James va faire du pragmatisme non pas seulement une théorie de la signification, mais aussi une théorie de la vérité, une attitude générale par rapport aux problèmes métaphysiques et existentiels. Même si, bien sûr, l'œuvre de James ne se réduit pas à ça, et son pragmatisme est en relation avec son empirisme radical et avec sa psychologie. Et en fait, Dewey appartient, lui, à une génération qui n'est pas la génération de Peirce et de James. Dewey est plus jeune. Il y a une vingtaine d'années qui le sépare de Peirce et de James. En fait, la connexion se fait via un enseignant qui dirige la thèse de Dewey à l'université Johns Hopkins à Baltimore, qui est Stanley Hall, qui était aussi un élève de James. Et en fait, on doit surtout à Dewey une extension du pragmatisme à des questions sociales, politiques, esthétiques et pédagogiques, ce qui était en fait très très peu présent dans les pragmatismes respectifs de Peirce et de James. Et en fait, Dewey lui-même va être assez, va souvent préférer le terme instrumentalisme au terme pragmatisme pour désigner ce qu'on appelle son pragmatisme. Alors là, il veut montrer que la connaissance, les idées, l'intelligence, ce sont des opérations qui médiatisent les transactions entre les organismes et leur environnement, et que donc on doit définir leur valeur et à partir de leurs conséquences dans le champ de l'expérience, une expérience, on l'a vu largement cette semaine, à la fois individuelle et collective. Et donc, ce qui est propre à Dewey, vraiment, c'est d'étendre le pragmatisme vers ces questions politiques, sociales et évidemment pédagogiques. C'est propre à son projet plus général, eh bien, de construire une intelligence expérimentale dans le domaine de la morale et de la politique. Et en fait,
non, et ce qui est peut-être propre à John Dewey aussi, c'est le fait d'intervenir beaucoup plus que ses autres collègues philosophes participant de ce même courant dans l'espace public. D'une certaine façon, et sans faire de mauvais jeu de mots, Dewey est conséquent au sens où, puisque les conséquences et le conséquentialisme est quelque chose d'important, il est conséquent puisqu'il tire comme conclusion de cette philosophie la nécessité de s'engager en écrivant des articles de journaux, en ayant en tête une utopie politique au fond.
Oui, c'est tout à fait, absolument. Ça a été évoqué à maintes reprises cette semaine. L'activisme social et politique de Dewey est absolument indissociable de sa philosophie. Et lorsque Dewey définit ce qu'est pour lui la philosophie et ce qui est peut-être le problème philosophique fondamental, c'est aussi un problème social et politique. Comment, encore une fois, reconstruire ce qui relève de la morale, ce qui relève de la politique à une époque troublée à bien des plans et qui est marquée notamment par un conservatisme philosophique important qui n'a pas su tirer les leçons de la révolution expérimentale de la science moderne. Donc en effet, cet activisme est absolument fondamental, et c'est aussi lui qui va en partie expliquer pourquoi, après sa mort, entre 1952 et les années 70, sur le plan de la philosophie en tant que telle, l'œuvre de Dewey va être passablement oubliée ou ignorée dans les départements de philosophie. C'est parce qu'elle est politiquement et socialement engagée. Or, à une époque post-Seconde Guerre mondiale, on valorise avant tout la neutralité putative de la science et de la philosophie, il était, l'œuvre engagée de Dewey était assez mal vue.
Alors, ça, c'est pour le contexte, on va dire, philosophique de la naissance de cette œuvre de Dewey et sa place dans ce courant pragmatiste. J'aimerais qu'on regarde du côté des sciences sociales, et sans faire d'anachronisme, Carole Gaillevio, parce que, au fond, la sociologie, au moment où Dewey débute sa carrière universitaire, n'existe pas véritablement en tant que tel. Il faut rappeler que Dewey naît en 1859, c'est-à-dire un an après Émile Durkheim, un peu avant Max Weber. Enfin, il est en fait contemporain des fondateurs de la sociologie.
Oui, tout à fait. Donc, son influence, en fait, elle va se nouer autour de l'école de Chicago, dont vous connaissez bien justement une des figures fondatrices, donc que vous avez cité dans votre propos de cadrage, Park. Et c'est vrai que donc ce qu'on a rétrospectivement désigné comme l'école de Chicago de sociologie va être ce lieu très important de développement d'une articulation et d'une porosité qui, comme Pierre Steiner l'a évoqué, pourra être considéré comme rédhibitoire ou poser problème, mais qui, pour ceux qui sont les héritiers de Dewey en sciences sociales, est au contraire une source de fécondité importante. Cette porosité et cette articulation entre, d'une part, la pensée académique et, d'autre part, divers engagements dans le monde social en prise avec les problèmes sociaux et les problèmes politiques. Et donc d'autres façons de faire du terrain, comme vous l'avez mentionné, donc le journalisme, en fait, l'observation directe. Enfin voilà, il y a des formes de d'émulation et de porosité très importantes, donc qui va être connectée avec The Hull House de Jane Addams, mais avec donc tous les auteurs importants de l'école de Chicago, sachant que à cette époque-là, quand se constitue cette école, il y a vraiment l'idée que les vagues importantes de migration font de la ville un espace décisif à la fois pour la pensée du réformisme, pour la pensée de la ville comme laboratoire, communauté politique. Comment faire communauté? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et qui on est ensemble? Toutes ces questions-là qui sont fondatrices de certaines manières de faire de la sociologie, elles vont être liées à un type de terrain, à un type d'espace qui va être celui de la ville métropolitaine, cosmopolite, telle qu'elle va se développer voilà, au tournant 19e, 20e. Et Dewey, en fait, va, et ça c'est très important pour sa pensée et pour la façon dont, de manière très générale, il est un auteur important pour penser l'articulation entre, on l'a dit, la pensée et la pratique, mais aussi du coup entre les disciplines et notamment entre la philosophie et les sciences sociales. Et ce lien, c'est le fait que c'est dans un monde où il y a des problèmes qui se posent sur des terrains très précis, dans des contextes très particuliers, que des questions sont pertinentes, et c'est toujours depuis ce monde où des questions sont pertinentes qu'on va réfléchir, élaborer et clarifier les questions.
Alors, il y a cette dimension de l'engagement, de l'activisme dont vous parliez, qui va trouver à s'épanouir aussi dans une forme d'action sociale et qui est le community organizing, selon l'expression consacrée aux États-Unis, qui sera développée notamment par Saul Alinsky et qui aura des prolongements politiques très 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 lointains. On se souvient que Barack Obama est passé par cette méthode du community organizing. Tout ça, c'est un peu cet héritage du travail social à la manière de Chicago. Mais peut-être il y a une autre dimension, Carole Gaillevio, qu'il faut souligner dans la contribution de Dewey à la naissance de ce type de sociologie et qui est plus théorique, qui est le fondement interactionniste au fond de cette sociologie. On a insisté cette semaine aussi sur la notion d'interaction ou de transaction, parce que Joël Zask préfère peut-être ce terme de transaction. Au fond, ce concept-là va être au centre de la sociologie qu'on appellera interactionniste par la suite, d'ailleurs qui va être aussi influencé par d'autres courants européens. Park, dont je parlais, est allé travailler avec Georg Simmel en Allemagne, qui jouera un rôle important là-dedans. Mais il y a cette notion d'interaction qui sera d'abord et avant tout développée aux États-Unis, Carole Gaillevio.
Oui, tout à fait. C'est vrai que là, à mesure que donc on passe en fait de gens comme Burgess à des gens de la seconde génération qui vont être très très importants, comme Erving Goffman. Qui est une des figures vraiment clés du développement de la sociologie qu'on va appeler interactionniste et qui va précisément s'intéresser à la façon dont les normes sociales s'accomplissent dans des situations. Et donc c'est vrai que l'affiliation remonte jusqu'aux premiers auteurs qui ont pensé l'interaction en ville autour de la figure de l'étranger, du citadin. Et donc le citoyen comme citadin, comme étranger, se pense vraiment au rat des situations et des épreuves de la coexistence urbaine entre ces figures qui ont justement des milieux d'origine très différents. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'après, on va retrouver dans la tradition interactionniste, donc notamment chez Goffman, qui va systématiser ce principe de regarder le monde social et sa normativité depuis les interactions, c'est-à-dire les actions mutuelles réciproques, comme avait dit Zimmel, et leurs effets. Et donc la production émergente, en fait, et un couplage évidemment avec les structures et les institutions, mais qui sont finalement plutôt considérées comme se trouvant dans une réalité d'arrière-plan et seconde. Et l'intérêt de l'analyse, du coup, se porte prioritairement sur les formes d'expérience directe du côtoiement.
On le trouve chez Irving Goffman et on le trouve aussi chez son ami qui fut étudiant avec lui sur les bancs de l'Université de Chicago dès le milieu des années 40, Howard Baker, qui développera d'autres manières de penser ces interactions. On va revenir sur la manière dont vous travaillez, Carole Gaillévio, aujourd'hui sur l'espace public, sur ces interactions de face à face, sur les relations justement dans la vie, à l'étranger par exemple ou à d'autres dans quelques instants, mais je voudrais qu'on rebascule du côté philosophique, si j'ose dire, avec vous, Pierre Steiner, pour cette fois non pas examiner le pragmatisme avant Dewey, ni même celui avec Dewey, mais celui d'après Dewey, l'héritage au fond, parce que ce courant pragmatiste va se poursuivre encore jusqu'à aujourd'hui. Dewey n'est que l'une des sources, mais dans quelle mesure cette source va être importante pour ses prolongements, Pierre Steiner?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que entre la mort de Dewey et les années 1970, je l'ai évoqué, le pragmatisme dans les départements de philosophie américains est très peu présent. Alors, il y a certains noms qui sont importants, Sidney Hook, Morton White, par exemple, mais c'est seulement, en effet, à partir des années 70 qu'en fait, on redécouvre Dewey. Et ici, un nom très important dans ce qu'on appelle le néo-pragmatisme, c'est le nom de Richard Rorty. Rorty, un philosophe américain extrêmement important, qui a été formé dans le giron de la philosophie analytique, donc une formation très classique, et qui en fait progressivement va utiliser Dewey, mais également des auteurs comme Heidegger ou Wittgenstein, pour s'émanciper de l'orthodoxie analytique, en valorisant l'importance de Dewey. Et en fait, Rorty, en faisant cela, Rorty va constituer un peu le point de départ d'une redécouverte, d'une réintroduction progressive de Dewey en philosophie. Il y a aussi des noms importants comme Joseph Margolis, Hilary Putnam, Richard Schusterman, dont on a parlé hier, et à chaque fois, vont redécouvrir et réintroduire et revaloriser l'importance de Dewey, l'idée étant qu'au fond, les impasses auxquelles la philosophie analytique a pu aboutir sont des impasses qui avaient déjà été diagnostiquées par Dewey, et Dewey aurait déjà proposé des manières de dépasser les faux problèmes qui auraient été légués par la pensée analytique. Et c'est encore aujourd'hui un usage important de Dewey, cela étant, au sein du pragmatisme aujourd'hui, il existe évidemment différentes tensions, voire lignes de fracture. Certains vont plutôt accorder de l'importance à Rorty et à Dewey, d'autres vont plutôt plaider pour un retour à Peirce et une forme de pragmatisme qui n'est pas celle défendue par Rorty.
Rorty, qu'on va entendre parler précisément de John Dewey.
Dewey n'a jamais été très populaire parmi ses collègues professeurs de philosophie. Mais il a été un intellectuel qui a le mieux défendu en public les mesures social-démocrates de l'ère progressiste et du New Deal. Il était donc une figure importante de la vie publique américaine. Il avait une vision utopique de la social-démocratie qu'il imaginait comme social-démocratie participative, un rêve qui ne se réalisera probablement jamais.
« une figure importante de la vie publique américaine, disait Richard Rorty à propos de John Dewey. On peut dire la même chose à propos de Rorty, Pierre Steiner. Est-ce qu'il a continué cet héritage? C'est un philosophe qui avait pour habitude aussi d'intervenir assez régulièrement dans l'espace public, mais sans doute pas avec la même notoriété qu'avait pu avoir Dewey à l'époque.
Oui, alors en effet, puisque le travail philosophique de Rorty prend place dans une époque académique qui n'est plus celle de Dewey, et Rorty va souvent se heurter à la résistance et à l'hostilité des philosophes analytiques implantés à l'époque, qui vont lui reprocher le fait simplement de ne plus faire ou de ne pas faire de philosophie. Cela étant, ça n'a pas empêché Rorty, en effet, d'être actif sur le plan de la défense et de l'expression des idées. Alors, en reprenant les utopies et les ambitions réformistes de Dewey, mais de manière très différente. En effet, Rorty va retenir un certain nombre de choses chez Dewey pour sortir de la philosophie classique et fondationnelle, mais en même temps, par exemple, il va estimer que le concept d'expérience est central chez Dewey, eh bien, on peut et on doit aussi s'en débarrasser. Il n'est pas nécessaire, il est même ambigu. Ou encore, l'appel récurrent que Dewey va faire à la méthode scientifique ou à la méthode expérimentale à importer dans le champ de la morale ou de la politique, là aussi, Rorty va estimer que c'est très ambigu, c'est très confus, et c'est même limite une régression par rapport à ce qu'il y a de tiré de mieux dans le pragmatisme de Dewey. Donc Rorty va poursuivre cette ambition réformiste, mais pour lui, ça ne passe plus par les moyens ou les méthodes proposées par Dewey, ça va plutôt passer par justement ce qu'il appelle le travail sur les vocabulaires des philosophes, les vocabulaires de la littérature, qui offrent de nouvelles utopies sociales et des manières de penser l'émancipation des individus.
Utopie social-démocrate participative ou social-démocratique participative, c'est l'expression qu'utilise Richard Rorty pour parler du rêve dont il dit qu'il n'aboutira sans doute jamais de John Dewey. Carole Gaillet, ça fait écho à des centres d'intérêt relativement récents en sciences politiques, cette dimension participative de la social-démocratie.
Oui, c'est vrai que à chaque fois qu'on s'intéresse à Dewey, on trouve que sa réflexion est d'une actualité vraiment frappante, et notamment cette question de la participation, mais de manière plus générale, du fait que, et ça je pense que c'est Joël Zaff qui l'avait mentionné notamment, la démocratie est un travail, une tâche à accomplir, et donc cette dimension en fait de la démocratie, pas seulement comme un certain type de constitution, de droit, un régime politique ou un mode de gouvernement, mais vraiment comme une culture politique et comme quelque chose qui est toujours en train de se renouveler et qui reste toujours à faire. Et c'est vrai que du coup, c'est un auteur extrêmement fécond pour penser les engagements citoyens sous toutes leurs formes, et donc au-delà des moments canoniques du vote ou de la manifestation, c'est-à-dire bien au-delà des instances où il s'agit soit de conquérir le pouvoir, soit de l'exercer, soit de le contester, mais vraiment dans des formes plurielles et finalement dans toutes les formes de la vie sociale. Donc je pense que là où il reste vraiment en fait à prendre acte et prendre au sérieux et dérouler les conséquences de sa théorie de la démocratie sur nos façons d'enquêter sur le politique, c'est sur ce lien-là, sur la façon dont ce qu'il appelle l'esprit démocratique, en fait, donc cette idée que la démocratie c'est lié à l'esprit public, à une certaine orientation, ça doit traverser en fait tous les domaines de la vie.
Et c'est sur quoi vous travaillez, Carole Gaillet-Viau, la citoyenneté comme vie commune. Et comment vous vous y prenez dans une perspective, au fond, douillienne et en même temps sociologique pour observer la démocratie ailleurs qu'au Parlement ou dans les ministères?
Alors, moi, au CEMS, donc un laboratoire de l'EHSS où j'ai été formée, c'est vraiment autour de la question du public qu'on a découvert Dewey. Donc, par l'entremise, d'ailleurs, d'un certain nombre de ces auteurs qu'on a évoqués, Goffman, Mead, et on discutait aussi d'autres philosophies du public. C'était le séminaire de Louis Quéré, de Daniel Tchéfa. Il y avait aussi le rôle important d'Isaac Joseph, qui ont été des passeurs de ces questions-là.
Et puisque vous citez le nom Daniel Sefai, c'est très important aussi. Je voulais quand même mentionner l'association Pragmata, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont regroupés là, dans cet intérêt pour le pragmatisme, à la croisée entre la philosophie et les sciences sociales ces dernières années.
Oui, tout à fait. C'est une revue qui est toute neuve, qui en est là à son troisième numéro et qui est adossée à l'association francophone d'études pragmatistes, qui est elle aussi toute récente et où on fait exister justement en pratique l'articulation entre différentes disciplines et on essaye de faire exister voilà la fécondité de cet héritage de manière collective. Et donc moi c'est en travaillant sur la vie publique en fait, donc à la croisée si vous voulez de l'héritage de la sociologie interactionniste qui regarde les formes de côtoiement et puis de cette pensée pragmatiste qui permet de pas s'en tenir à un côté qui est souvent une source de clôture sur ces questions, qui a un côté un peu ritualiste. On considère souvent que les formes de côtoiement sont réglées par des conventions et que voilà il n'y a pas grand chose à en dire. Et moi c'est vrai que Dewey pour moi a été très utile pour dépasser ces dualismes entre convention et créativité, entre social et politique aussi, parce que la civilité et les réglages de la sociabilité ordinaire sont souvent considérés justement comme très cérémoniels, réglés par convention, et donc finalement, ça c'est quelque chose que je reproche un peu à Goffman, pas très intéressant sur le fond. Alors que si on regarde ça précisément à partir de Dewey et de la notion d'expérience comme une façon itérative de mettre à l'épreuve les normes et de, en fait aussi du coup de contribuer à les transformer en les mettant en œuvre, que l'accomplissement est créatif et transformatif, ben là c'est très fécond. On regarde par exemple la transformation des rapports de genre en public, mais aussi des rapports d'âge, enfin de toute forme de rapport, et comment les catégories sont mises à l'épreuve et pas seulement exemplifiées dans les situations de la vie quotidienne. Et donc regarder les engagements citoyens comme des façons justement de s'éduquer les uns les autres dans la vie quotidienne. En fait, moi, cette dimension d'éducation et le lien entre éducation mutuelle, pédagogie mutuelle et démocratie, je l'ai observé dans mes enquêtes. Et donc, c'est évidemment très important pour moi de retrouver ça chez Dewey, parce que c'est vrai que son travail sur démocratie et éducation, d'ailleurs, qui est le titre d'un de ses ouvrages, montre bien qu'en fait, l'éducation n'est pas seulement un moment de la vie, mais quelque chose qui est un accomplissement continu.
Alors on trouve certains de ces travaux, un article en particulier que vous avez consacré à l'incivilité dans un dossier de la revue Politics que vous avez coordonné avec Alexandra Bidet et Erwan Lemener récemment, Le politique au coin de la rue, Carole Gaillet. Il nous reste peu de temps, mais Pierre Steiner, je voudrais, parce qu'on n'a pas prononcé, il me semble, son nom, dans une perspective totalement différente par rapport aux objets politiques, mais pour bien mesurer les héritages multiples de Dewey, qu'on cite le nom de Jürgen Habermas, qui est quand même un des grands philosophes de la politique de ces dernières décennies et pour lequel Dewey a été une influence importante aussi.
Oui, en effet, si on s'intéresse à l'héritage du pragmatisme et à sa redécouverte à partir des années 70, il faut mentionner le cas allemand via notamment Karl Otto Appel et Peirce, et en effet Habermas et plus tard Honneth, leur redécouverte de Dewey et de Mead, qui vont surtout être lus et utilisés pour en quelque sorte amender la théorie critique et prendre une certaine distance par rapport à certains aspects du marxisme, tout ce qui relève notamment des déterminismes. Habermas va surtout s'intéresser à ce qu'on peut tirer de la théorie de la communication chez Mead, mais également chez Dewey, à l'idée que la conscience et que la conscience de soi est notamment constituée dans les interactions dans les institutions publiques. C'est un usage très important, et également l'idée que la thématique de la vérité en philosophie ne peut pas être désolidarisée de l'étude des modes de justification, là aussi qui sont des modes publics. Donc ça participe de cet héritage de Dewey.
Merci beaucoup Pierre Steiner et merci Carole Gaillet-Viau. Beaucoup de raisons d'avoir raison d'hériter de John Dewey. Ce sera notre conclusion de cette série des 5 volets consacrés à la pensée de John Dewey, que vous pouvez retrouver évidemment sur le site de France Culture et écouter en streaming ou en podcast.